Gloire à Dieu. Nous continuons notre série Béréen l'explorateur avec le psaume 128. Psaume 128.
Psaume 128. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël.
Amen. Voilà, donc ça c'est un psaume sur le bonheur du juste. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. C'est lui le juste. Le juste, c'est quelqu'un qui reconnaît que Dieu est au-dessus de lui et qu'il a besoin de Dieu pour toute sa vie. Voilà. C'est ça le juste. C'est pas quelqu'un qui est irréprochable à tout moment, mais qui sait se repentir, reconnaître ses torts, mettre en avant Dieu, mettre en avant sa parole. Et s'incliner devant Dieu pour laisser Dieu le sauver et s'occuper de lui. C'est ça le juste. Et c'est quelqu'un qui aime les commandements de Dieu, qui les trouve bons, qui n'est pas là à chercher où se trouve la faille chez Dieu, mais qui, devant la création, devant la révélation dans le cœur, il s'incline pour reconnaître que Dieu seul est grand et mérite la louange, le respect. Ce sont de tels hommes qui craignent l'Éternel. C'est ça, craindre Dieu. Reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous, on n'est que des créatures. On doit s'incliner devant lui. C'est ça, craindre l'Éternel. Du coup, quand il parle, on prend au sérieux. Qui marche dans ses voies. Donc tu prends au sérieux la parole de Dieu, tu marches dans ses voies. Il nous est dit que le juste aura une vie agréable. Voilà, c'est ce que nous dit ce psaume. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Donc en quelque sorte, le juste va avoir une vie de famille, une vie terrestre agréable où les promesses naturelles de Dieu s'accomplissent. Avoir des enfants, avoir une bonne santé, avoir de la nourriture. Alors ces choses-là naturellement vont s'accomplir en faveur du juste. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Alors on nous prophétise également la perfection future de Jérusalem. Jérusalem sera une ville dans la paix, dans la joie. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Voilà. Et dans l'avenir, Israël sera toujours dans la paix et il peut l'être aussi à tout moment. Parce que maintenant, c'est la question qu'on va se poser, c'est que, mais pourquoi il y a des moments où le juste a des difficultés? Pourquoi? Parce que là, on nous prédit une vie du juste comparable à ce que à peu près prêche l'évangile de prospérité. Voilà. Donc, si tu es en accord avec Dieu, tu seras bien, tu auras des enfants, tu vas te marier, tu vas avoir un bon travail, ainsi de suite. Et là, un frère m'a dit que il y a même dans une église où on dit que quand le pauvre prie, ce n'est pas une très belle, bonne prière, c'est pas très agréable à Dieu, parce que souvent, quand quelqu'un est pauvre, il a plusieurs soucis, Du coup, quand il prie avec ce souci-là. Ça ne plaît pas trop à Dieu. C'est la prière du riche qui est agréable à Dieu. Voilà. Parce que quand le riche, il vient devant Dieu pour prier, il a déjà réglé tous ses problèmes. Du coup, il est vraiment concentré sur Dieu seul. Vous voyez des abominations comme ça? Ça, c'est l'évangile de prospérité. Et ces gens-là peuvent parfois prendre des passages bibliques et ne regarder que le côté qui leur plaît. Or, nous savons que la Bible, ce n'est pas qu'un verset, ce n'est pas qu'un un psaume. La Bible est un tout. Il y a plusieurs écrits. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment expliquer que le juste souffre aussi, a des difficultés. Et la réponse est celle-ci. Il va en avoir deux. La première, c'est les épreuves. Dieu permet des épreuves dans la vie du juste pour pouvoir le maintenir près de lui. Il permet des difficultés, il permet des épreuves pour faire en sorte que le juste continue à dépendre de lui, parce que s'il s'éloigne de Dieu, il va sombrer. Souvent, on est des humains, on s'en rappelle, on le sait. Lorsque tout va bien, on a tendance à s'éloigner de Dieu. Nous avons tendance à nous éloigner de Dieu lorsque tout va bien. Et donc Dieu va permettre des épreuves, des difficultés pour nous maintenir dans l'humilité et plus près de lui. Voilà pourquoi le juste peut parfois connaître des difficultés. Ces difficultés-là sont des épreuves. Toujours dans les épreuves, il y a des épreuves qui sont liées à l'obtention d'une plus grande gloire. Ça, c'est pas des épreuves de maintenance, de formation, mais des épreuves pour nous amener à une plus grande gloire, comme l'histoire d'Abraham qui attendait Isaac. Voilà, c'était une épreuve pour amener Abraham à une foi qui soit le socle de la foi de tous ceux qui allaient venir plus tard. Voilà, c'est des épreuves pour amener une plus grande gloire. Joseph, son épreuve, c'était pour l'amener à encore une plus grande gloire. Voilà. Et Dieu permet les épreuves pour nous préparer à l'humilité, de sorte que quand la gloire vient, nous restons humbles, parce que dans l'épreuve, nous avons appris à honorer Dieu, à considérer que Dieu a toujours raison, de sorte que même quand on va se sentir fort, plus tard, on attribuera ça qu'à lui. On continuera à le respecter. Donc ça, c'est une autre catégorie d'épreuves pour amener à une plus grande gloire. On se souvient, par exemple, du garçon qui était aveugle de naissance. Quand on a demandé à Jésus le pourquoi, Jésus a dit, c'est parce que Dieu voulait manifester ses œuvres, donc sa gloire dans sa vie. On se souvient des 4 jours de Lazare. Le Seigneur pouvait aller assez tôt pour prier pour Lazare, malade, et le guérir, mais il a préféré laisser qu'il meure et qu'il fasse 4 jours dans le tombeau. Ce n'était pas parce que ce n'était pas une épreuve de maintenance, c'était une épreuve de glorification de Dieu. Et il leur a dit, je fais exprès, afin que vous voyez ma gloire et que vous croyez. Il fallait que ça passe 4 jours comme ça, vous voyez que je le ressuscite, que vous compreniez une fois pour toutes qui je suis. Voilà, qui je suis clairement. Et ça, ce sont des épreuves pour manifester la gloire de Dieu. Donc le juste, quand il traverse ces moments-là, il doit comprendre que c'est les épreuves de Dieu, donc c'est sous contrôle. Il ne doit pas tomber dans le découragement ni dans la rébellion. Ce sont des épreuves de Dieu pour sa formation, pour son perfectionnement, pour sa maintenance dans l'humilité et dans la dépendance à Dieu, et parfois pour préparer la manifestation d'une plus grande gloire dans sa vie. Et quand ça arrive, c'est ça qu'on doit se dire. C'est arrivé aussi à Job. On doit se dire ça. Voilà. Donc c'est vrai, tout ce qui est dit là, c'est vraiment la vie du juste. Dieu veut que la vie du juste soit ce qu'on est en train de lire. Tu jouis alors du travail de tes mains. Voilà. C'est ça qu'il veut pour la vie du juste. On a vu le frère, notre aîné Jacob. Il a travaillé et on a voulu l'escroquer. Mais il ne s'est pas plaint. Il a continué à travailler. Et nous connaissons la fin. La fin, ça a été quoi? C'est que finalement, il a récupéré tout ce que on avait tenté de lui ravir par son beau-père. Parce que, c'est clair, tu jouis alors du travail de tes mains. Ce que tu fais, ça te rapportera. C'est ça l'avenir du juste. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier. Donc tes fils respirent la santé, tes fils bougent, produisent. Voilà. C'est ça la volonté de Dieu pour le juste. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel et a un avenir de bénédiction, de paix, de joie, de santé. Cependant, comme on vient de dire, il peut y avoir des difficultés. Ça peut être des épreuves. Deuxièmement, quelle peut être la raison des difficultés? Ça peut être la non-combativité dans la foi. Le Seigneur nous a donné ses promesses. Il dit, ben voilà, moi, ce que je veux pour vous, les enfants de Dieu. Mais les promesses du Seigneur doivent s'obtenir par la foi. Lorsqu'il y a la foi qui ne s'exerce pas, on peut se retrouver dans des situations difficiles qui perdurent parce qu'on n'exerce pas notre foi pour refuser ça ou pour prier le Seigneur ou pour rappeler les promesses du Seigneur. Il le dit dans Isaïe 43, 26. Rappelle-moi ce que j'ai dit. Plaidons ensemble. Le Seigneur veut qu'on exerce notre foi. Et certaines personnes, au lieu d'exercer leur foi, ils préfèrent critiquer Dieu sur un malheur qui peut leur arriver. Ils préfèrent polémiquer avec Dieu ou avec les frères et sœurs pour dire « Mais voilà, si Dieu existait, mais regardez ce qui m'arrive. Voilà, pourtant j'ai prié, pourtant j'ai fait ceci. » Au lieu de se dire « Je refuse ce qui m'arrive parce que Dieu m'a promis ça, ça, ça. Je sais que ce qui m'arrive, ça va passer. Je m'attends à ce que Dieu a promis dans Psaume 128. » Ma vie doit être bénie, ma vie doit être agréable. Tu revendiques la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés, exerçons la foi. Ne soyons pas attentistes. On regarde tout simplement. Non, on doit réagir quand les choses sont difficiles. On doit manifester notre foi, rappeler à Dieu ce qu'il a dit. C'est ça, la vie du juste. Alors, donc, du coup, qu'est-ce que nous, on doit faire à chaque fois? Rappelez au Seigneur, voilà ce que toi tu as dit sur le juste. Je m'attends à toi par rapport à mes enfants. Je m'attends à toi par rapport au fait de procréer. Je m'attends à toi par rapport au fait d'avoir un travail qui me permette de subvenir à mes besoins. Voilà, puisqu'il a promis. Nous, on doit se saisir de ça pour dire, il a promis, je peux demander les choses. Je peux être déjà dans la joie parce que ces promesses sont véritables et elles vont s'accomplir. Voilà le bonheur du juste. Nous passons au psaume 129.
Cantique des degrés. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main. Celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point « Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. » Nous vous bénissons au nom de l'Éternel.
Amen, amen, amen. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Ce psaume parle des blessures du passé. Voilà. Ce psaume parle des blessures du passé, surtout celles de l'enfance, parce que ce sont les blessures de l'enfance qui restent gravées longtemps, pour la simple raison que l'enfant n'a pas encore appris à se battre psychiquement. Quand on est enfant, on est sous pression des adultes, de la société. On n'a pas encore des mécanismes de résistance que l'adulte possède. Du coup, beaucoup de blessures du passé interviennent quand on est enfant. C'est pourquoi c'est écrit « Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse ». Il y a beaucoup de gens qui ont souffert pendant leur jeunesse et ils m'ont assez opprimé, mais ils ne m'ont pas vaincu. Mais tu existes encore, tu es vivant. Il y a donc de l'avenir. Parce que certains parlent tellement des blessures du passé, c'est comme s'ils étaient morts. Non, mais si tu es encore vivant, c'est que ces blessures ne t'ont pas vaincu. Parce que beaucoup à ta place se seraient suicidés. Ils seraient plus vivants. Mais toi, tu as surmonté, tu es là. Mais tu ne fais que l'apologie de ces blessures, de souffrances du passé. Ce n'est pas normal. Quelque part, si tu existes, tu es en face des humains, ceux qui ne t'ont pas vaincu, ces gens-là qui t'ont opprimé. Voilà. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. Oui, c'est ça les blessures du passé, c'est comme des sillons, c'est des sillons, c'est des lignes profondes sur la terre pour recevoir la semence. Donc, on fait des lignes profondes et imaginez que c'est des lignes profondes maintenant dans l'âme d'un être humain. C'est ça les blessures du passé, c'est des lignes profondes, c'est des rayures, donc des blessures sur le corps, l'âme et l'esprit qui peuvent perturber quelqu'un pendant toute sa vie. Mais ce psaume est un espoir parce que ça nous dit « Ils ne m'ont pas vaincu ». S'ils ne t'ont pas vaincu, le match doit finir par quoi? Par ta victoire. Bien-aimé, tout combat commence d'abord par la résistance. En général, c'est comme ça que les combats se font. D'abord, tu résistes, ensuite, tu attaques. Parce que parfois, en attaquant en même temps que l'autre attaque, tu peux être distrait et recevoir un coup fatal. Dans un premier temps, tu résistes. Surtout, vous savez, le jeu où, il y a un groupe à gauche, un groupe à droite qui doivent tirer une corde. Donc, ceux qui vont être entraînés après une ligne. Voilà, c'est un jeu de résistance et de traction. Dans un premier temps, vous résistez à la traction des autres. Quand vous résistez, eux, ils ont mis beaucoup d'efforts à vous tirer. Ils se sont fatigués un tout petit peu. Mais en se fatiguant, vous réussissez à résister. Et à un moment où eux, ils sont un peu plus fatigués, vous tirez et ça marche. Mais si vous tirez trop en même temps, souvent, ça finit que les gens vraiment qui ont plus de force, ils gagnent puisque vous avez tiré en même temps. Mais si vous avez d'abord résisté un tout petit peu, leur soutirer leur force, là, quand vous tirez, ça marche. Donc, le combat, c'est souvent la résistance d'abord. Donc, quand tu résistes, tu es déjà dans la moitié de la victoire. Quand tu sais résister. Donc, quand quelqu'un a survécu à ses blessures de l'enfance, à ses blessures de la vie, il a pu résister. Maintenant, quand tu as suffisamment résisté, il ne te reste plus que la victoire. Il est écrit, résister au diable, il fuira au loin. Beaucoup ont résisté, mais parlent de leurs blessures et de leurs souffrances du passé comme des défaites pour eux. Il reste dans la défaite. Or, ce n'est pas la défaite puisque tu existes toujours. C'est que ça, ils ne t'ont pas eu. Ils ne t'ont pas vaincu. Donc, au lieu maintenant de passer à l'attaque, de vivre par la grâce de Dieu, dans la paix et la joie héritée de l'œuvre de la croix, ces gens-là ne font qu'encenser leur passé douloureux. Et ce faisant, ils se maintiennent eux-mêmes dans une sorte de défaite dans laquelle ils ne sont pas vraiment en réalité parce qu'ils ont survécu. Même eux-mêmes se plongent dans la défaite en ressassant les souffrances, les blessures, les injustices du passé avec leurs conséquences sur eux. Jusqu'aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui se mettent dans la défaite. Or, ce psaume nous dit, mais ils ne t'ont pas vaincu puisque tu es là. Tu as surmonté. Maintenant, il faut passer à l'autre phase, c'est toi qui dois triompher sur ces blessures-là, c'est toi qui dois triompher sur les moqueries du passé par la joie du salut, par la joie d'être aimé par Dieu, par la nouvelle vie en Christ. C'est ça qui manque à beaucoup de personnes et ils vont passer par des séances de psychologie, de psychiatres, de temps, voir des psychiatres ou on appelle relations d'aide dans les milieux chrétiens, ça dure. Or, c'est simple, c'est juste que maintenant tu as la joie du salut, tu as la joie d'être un enfant de Dieu, vis cette joie, vis les promesses, comprends ce que Jésus a dit à l'aveugle, que tout ça a été permis puisque Dieu voulait manifester sa gloire, Dieu a permis tes blessures, a permis qu'on te martyrise quand tu étais enfant, parce qu'il voulait démontrer qu'il a la capacité de te faire oublier ça, il voulait démontrer que son amour est plus fort, son amour est plus fort que la méchanceté des humains. Son amour est plus fort que ça. C'est ça qu'il voulait démontrer par toi. Ce n'était pas parce qu'il t'avait oublié ou bien il n'avait pas fait cas de toi. C'est juste qu'il voulait montrer que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce, l'amour sont supérieurs à la méchanceté et au péché. C'est ça qu'il voulait démontrer. Il faut accepter ça, bien-aimé. Il faut une fois pour toutes passer à l'offensive, enterrer les souffrances du passé, enterrer les défaites du passé pour vivre les victoires du présent. C'est ça qui bloque beaucoup de personnes. Nous espérons que ce psaume va nous réveiller, va nous pousser à la victoire. Il est écrit, l'Éternel est juste, au verset 4, il a coupé les cordes des méchants. Il a coupé les cordes des méchants. Vous savez, certains même qui nous ont fait souffrir, parfois ils sont morts déjà. Et toi, tu continues à en parler, mais il est même mort, tu ne peux même... En quelque sorte, sa mort, ça veut dire quoi? C'est lui qui a perdu, non? Certains qui nous ont fait souffrir, ils sont morts. Et toi, tu continues à souffrir de ce qu'ils ont fait sur toi dans le passé. Tu leur donnes l'avantage, même mort. À un moment donné, reconnaissons ce qui est vrai. C'est que celui qui est mort, c'est celui qui a perdu la bataille. Nous, on connaît dans beaucoup de familles, un tel était accusé comme sorcier. Finalement, c'est lui qui meurt avant les autres. Bon. Maintenant, lui, il est mort. Vous allez accuser qui maintenant? À un moment donné, il faut que le chrétien se saisisse de sa victoire. Qu'il arrête de stigmatiser la méchanceté des humains ou des démons, mais qu'il glorifie Jésus pour la victoire qu'il lui a donnée à la croix. À un moment donné, il faut marcher en vainqueur après avoir résisté. Le fait que tu es là, c'est que tu as réussi. Tu as surmonté. Maintenant, il faut vivre cette victoire, célébrer cette victoire, passer à autre chose, vivre une nouvelle vie. Voilà, question.
Oui, il y a une question internet. Dans le psaume 46, au verset 5, donc il est écrit, il est un fleuve dont le courant réjouisse, dans les courants, pardon, réjouissent la cité de Dieu. Pouvez-vous nous dire ce que représente ce fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu?
Ça peut être une partie qui parle de ce qu'on voit à l'Apocalypse, à la fin, il y a un fleuve qui traverse la cité de Dieu. Voilà.
Et une autre question, donc c'est un peu hors contexte, je la pose peut-être maintenant. Bonjour, les tatouages avec des croix sont-ils autorisés?
Non, les tatouages donc en eux-mêmes ne sont pas conseillés. On peut lire ça dans Lévitique, je crois, 19. Hein. Lévitique 19. Peut-être verset 28 ou...
Lévitique, 19, 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel.
Voilà, donc vous n'imprimerez pas de figure sur vous.
Et il y a un autre internaute qui pose la question. Bonjour, est-ce que les tatouages pour glorifier Dieu sont autorisés? Car dans Apocalypse 19, 16, cette personne avait un tatouage.
Apocalypse 19, 16. Ah bon?
C'est une question. Cette personne avait un tatouage? C'est une question, je crois.
Ah, c'est une question. D'accord. On va voir.
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
C'est pourquoi l'internaute pose ses tatouages pour glorifier Dieu.
C'est pas un tatouage, donc ça c'est le nom. Et puis, ça c'est le Seigneur qui revient dans sa gloire. Et il est dit dans l'Apocalypse que nous aussi on aura un nom écrit sur nous. Ça c'est pas un tatouage. Voilà. Ça c'est Dieu qui met sa marque sur nous.
Et la première partie qui dit, est-ce que les tatouages pour glorifier Dieu?
Mais, non, on a déjà répondu, les tatouages ne sont pas permis. On a lu dans le Lévitique 19-28, les tatouages ne sont pas permis.
Même pour glorifier Dieu.
Non, mais là on rajoute, mais c'est écrit, ce n'est pas permis. Donc c'est comme si on dit, voler ce n'est pas permis, on est même pour glorifier Dieu. Non, voler ce n'est pas permis. Voilà, donc c'est le psaume 129, bien-aimé. Que ça nous fait passer des blessures à la victoire, du passé à la vie, au présent glorieux que le Seigneur a réservé pour nous. Et sachant que, vous voyez, du verset 5 au verset 8, c'est la moitié. Donc on voit que c'est les méchants qui vont subir les coups de Dieu. Voilà. Pourquoi insister sur les méchants, sachant que Dieu leur a réservé déjà un sort difficile? Une fois pour toutes, appliquons ce que le Seigneur nous dit, pardonnons ceux qui nous ont fait souffrir d'une manière ou d'une autre, et vivons les choses que le Seigneur nous donne aujourd'hui, par l'œuvre de la croix, par sa gloire, par sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, parce que ce sujet-là, parfois ça traîne pour beaucoup de personnes. Nous allons prier qu'à travers cette parole qu'on vient de lire, les blessures du passé, les souffrances du passé puissent être effacées dans le cœur de nous tous et qu'on entre vraiment dans la victoire du Seigneur, dans la joie du Seigneur. Éternel grand Dieu, je viens pardonner à tous ceux qui m'ont fait souffrir, ou à tous ceux qui nous ont fait souffrir, Seigneur, qu'ils reçoivent ton pardon, que ton pardon leur soit accordé. Nous voulons aujourd'hui nous concentrer, Seigneur, sur les richesses inépuisables, tes bontés infinies que tu as obtenues pour nous par ton sacrifice à la croix. Nous voulons que ces richesses inépuisables, infinies de bonté, d'amour et de paix inondent nos vies au point que nous en oublions le passé difficile, le passé de souffrance. Que ce soit au contraire, quelque chose, ce passé-là difficile, que ce soit quelque chose qui montre ta gloire par le fait que tu peux nous faire dépasser cela, Seigneur. Que ce soit un encouragement pour nous d'aller nous occuper de ceux qui souffrent, ayant expérimenté nous-mêmes que tu peux transformer le mal en bien, Seigneur. Manifeste-toi et guéris nos cœurs. Que le sourire soit de retour, la joie de retour et la louange également. La bénédiction des méchants également. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Oui.
Une question internet. Est-ce que Dieu permet que l'on fasse du mal à ses enfants, parfois pour manifester sa victoire sur la méchanceté?
Mais que l'on fasse du mal?
Oui.
Non, non. C'est pas... Nous passons au psaume 130.
Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance.
Amen.
C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités.
Amen, amen. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. Le salut, la rédemption, c'est le fait que on rachète un esclave qui était à un maître. Toi, tu viens, tu payes pour récupérer cet esclave-là et le mettre dans de bonnes conditions. Mais la rédemption est avec Dieu, est auprès de lui en abondance. Dieu rachète, Dieu peut nous sortir de l'esclavage du mal, de l'esclavage du péché. Il peut, il en a la capacité, il a la rédemption en abondance. Ce psaume est merveilleux, hyper merveilleux. C'est le psaume qui montre le pardon et la bonté de Dieu, qui sont vraiment notre pardon, bonté et fidélité de Dieu. C'est ça qui est, c'est ça notre trésor le plus précieux, le pardon de Dieu, sa bonté et sa fidélité. L'assurance qu'il peut sauver tout celui qui crie à lui. Voilà. Du fond de l'abîme, je t'invoque. C'est l'abîme du péché aussi. C'est l'abîme du mal. Certains sont liés par certains péchés. Peut-être la cigarette, la drogue, la colère. Invoque le Seigneur. C'est comme un abîme parce que tu as tout fait pour t'en sortir. C'est bloqué. Invoque le Seigneur. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Et voilà maintenant le caractère de Dieu qui sort là au verset 3 et 4. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Bien-aimé, que personne ne se trompe. Si Dieu devait tenir compte de péchés comme un apothicaire, comme on dit, faire des calculs d'apothicaire, aucun humain ne serait sauvé. Aucun. Il rappelle le caractère de Dieu. Si tu devais tenir compte de chaque péché éternel, qui pourrait subsister? Ne regarde pas qu'à tes péchés. Regarde à tous les péchés des humains. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucune personne n'est sauvée par elle-même. Parce que souvent, quand on regarde ces difficultés, on se dit, « Ah, mais un tel, lui, ça va vraiment dans sa vie. Un tel autre, lui, oh, bien-aimé, nous sommes tous sauvés par grâce. » Si ça va dans sa vie, c'est parce qu'il a crié à Dieu. C'est pas parce que lui, il a été plus bon que toi. Il a crié à Dieu. Dieu l'a délivré. Vous savez, c'est pourquoi le jugement de Dieu sera terrible. Parce qu'il sauve gratuitement. Si tu n'es pas sauvé, si tu restes dans tes péchés, c'est parce que tu ne cries pas à Dieu, tu ne demandes pas son aide. Parce que lui, il peut te sortir de là. Vouloir se présenter devant lui, purifié par soi-même, est une erreur grave. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Invoque l'Éternel du fond de l'abîme. Au moment où le péché est en train de te détruire ou bien de te menacer, invoque Dieu. Ne cherche pas à t'en sortir tout seul après pour te présenter devant lui. Invoque le Seigneur du fond de l'abîme. Et c'est le verset 4 qui est merveilleux. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Que nous enseigne ce verset? C'est que la crainte de Dieu est obtenue beaucoup plus par son pardon que par la menace de sa punition. Quand il a pardonné, il s'attire beaucoup plus la fidélité d'un humain que lorsqu'il n'a pas encore pardonné cet humain-là juste et lui demande de la fidélité par un commandement. C'est le principe de la loi et de la grâce. Et un passage biblique dans Romains dit, dans le chapitre 11, que Dieu a enfermé et les Juifs et les païens dans la désobéissance, afin que tous soient sauvés par la grâce de Dieu. L'homme délivré aime beaucoup plus que l'homme bon qui agit selon des commandements donnés à un moment donné. La délivrance rapproche plus de Dieu que le commandement. C'est le principe de la loi et de la grâce. Et vous allez voir, c'est ça la différence entre Adam et nous. Adam n'a pas été sauvé par une sorte de pardon et délivrance. Adam a été déposé bon sur terre et on a vu la conséquence, c'est qu'il a cherché à dépasser Dieu lui-même. Alors le Seigneur a changé de formule. Maintenant, on est d'abord délivré et par reconnaissance, nous nous attachons à Dieu. Et vous allez remarquer ça, bien-aimé. Les gens qui se sentent bons, ils sont les moins attachés à Dieu. Voilà, ils sont les moins attachés à Dieu. C'est comme les pharisiens. Ils étaient là tout le temps au temple, ils faisaient le travail, mais leur cœur n'était pas attaché à Dieu. Et on pouvait remarquer cela par leur comportement vis-à-vis de l'argent. Ils tenaient beaucoup à l'argent. Ils tenaient beaucoup à leur position sociale. Ils tenaient beaucoup à leurs avantages politiques. Mais celui qui a été sauvé comme Zachée, qui a été pardonné de ses péchés, vous voyez la différence? Lui, il vend la moitié de ses biens pour donner le fruit aux pauvres. Et l'autre moitié, il restitue aux gens à qui il a volé. Vous voyez, c'est une attitude différente. Celui qui est pardonné, il craint beaucoup plus Dieu. C'est ça ce que dit Psaume 130, verset 4. Le pardon se trouve en toi afin qu'on te craigne. Donc quand quelqu'un, alors qu'il devait t'amener en prison, il devait appeler les policiers pour te faire arrêter et qu'un jugement grave s'en suive, mais que cette personne finalement, il te dit, je te pardonne, écoute, ne recommence plus. Là, c'est tu vas davantage aimer cette personne-là et ne plus recommencer ton acte mauvais que tu avais commis, alors que si cette personne-là te gifle, te tape, te fait emprisonner, la chose que tu médites en prison, c'est que quand je vais sortir, je vais chercher cette personne-là, je vais lui régler son coin, ainsi de suite. Le pardon change beaucoup plus quelqu'un que le commandement. C'est ce que nous apprend ce verset, le pardon se trouve en toi. afin qu'on te craigne. Quand quelqu'un est pardonné, il respecte Dieu et dit, ah, sans lui, je serai en enfer. Sans lui, je serai perdu. Le pardon, la grâce supérieure à la loi. Jésus supérieur à Moïse. La loi n'a pas changé les gens. Mais la grâce crée de nouvelles personnes. Les gens qui écrivaient étaient inspirés vraiment par le Seigneur. Le pardon se trouve en toi afin que l'on te craigne. Alors, bien-aimé, au lieu de tourner en rond, demande pardon à Dieu. Au lieu de chercher de fausses excuses sur ton comportement, Dieu est prêt à te pardonner parce que le pardon, lui, cherche à ce que tu le craignes. Et il sait qu'en te pardonnant, c'est là que l'esprit de reconnaissance va monter en toi pour le servir maintenant fidèlement dans la vérité. L'esprit de reconnaissance nous attache plus à Dieu que la sainteté personnelle obtenue par ses propres efforts qui pousse les gens à devenir orgueilleux. Verset 5, « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. » Ça, c'est la partie sur la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, il agira toujours. « Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. » Vous savez, quand les gardes sont en train de faire leur travail, pendant la nuit, il fait froid. Ils ne pensent qu'à une chose, à la relève. Quand est-ce que la relève du matin viendra ? Quand est-ce que le matin poindra pour qu'ils retournent chez eux au chaud? Et la nuit paraît très, très, très longue. Très, très, très longue. Vous savez, ces vols d'avion où on n'a pas sommeil, les vols de nuit, tu n'as pas sommeil. Ça paraît très, très long. Très, très long. Et c'est ça ce que vivent les gardes pendant la nuit. Ils sont là, ils marchent parfois pour se réchauffer et ils attendent, et ils sont debout souvent et ils attendent que quelqu'un vienne le relever au lever du soleil. Ça paraît très très long, mais ça finit par arriver. Le matin finit par arriver. Et le psalmiste dit, plus que les gardes n'attendent le matin, ne compte sur le matin, moi je compte sur Dieu. Donc ça veut dire que la foi que les gardes ont d'attendre le matin, nous on doit avoir une foi supérieure à ça. Parce que les gardes savent que le matin va arriver. Ils le savent. Et bien, nous on nous dit que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans nos vies. Et il faut continuer à prier, à les attendre dans la prière et dans la conduite du Saint-Esprit. Attendre les promesses de Dieu. Il ne faut pas tourner la page. Beaucoup ont tourné beaucoup de pages bibliques en se disant, bon, on attend seulement la mort. Ce n'est pas bon. Il faut revendiquer les promesses du Seigneur jusqu'à la mort. Parce qu'il est fidèle. Il faut montrer une foi supérieure à celle des gardes concernant le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Ça, c'est vraiment encourageant. Nous devons continuer à évangéliser, parler de Dieu. Le Seigneur rachètera ceux qui doivent être rachetés. Au nom de Jésus. Amen. On va clôturer avec le psaume 131. Oui, question ?
Oui, question Internet. L'Internet veut savoir si les chrétiens qui subissent le mal des méchants, si cela est parfois permis par Dieu pour montrer aux méchants que Dieu est plus fort que sa méchanceté.
Amen, oui, parfois oui. Pour montrer aux méchants que l'amour de Dieu est plus grand, pour aider aussi le chrétien à vivre comme Dieu lui-même qui supporte les méchants et les bons. Psaume 131, psaume de l'humilité.
Cantique des degrés. De David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais.
Amen, amen. L'âme tranquille, l'âme humble. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni de regard hautain. Donc quelqu'un qui regarde toujours les autres comme supérieur à lui-même. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Tout ce qui est compliqué, je laisse à Dieu. Je ne prétends pas, comme les témoins de Jéhovah et beaucoup de sectes, vouloir tout expliquer. Voilà. Je me contente de ce qui m'édifie, ce qui m'amène à grandir spirituellement. Tout ce qui est compliqué concernant la nature profonde de Dieu qui est au-dessus de ma pensée, je laisse ça à Dieu. Je préfère manger les choses simples que Dieu donne, qui font croître les enfants. Voilà. D'ailleurs, c'est ça la comparaison. Il se compare à un enfant. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Voilà. Un enfant qui est sevré auprès de sa mère, c'est un enfant tranquille. Il se sent en sécurité. Même s'il y a la guerre tout autour, le fait qu'il est dans les bras de sa mère, dans le sein de sa mère, il se sent en sécurité. Il a sa nourriture près de lui, tranquillement il boit son lait. Il est en sécurité, il est bien. Il ne se préoccupe pas d'âme, X plus Y, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas son problème, il est dans les bras de sa maman. Une âme calme et tranquille. Bien-aimés, soyons comme ça, dans les bras du Seigneur, dans ses bras d'amour. Tranquille, en paix. Les problèmes compliqués arrivent. On soumet ça à Dieu, à travers la prière. On soumet ça à Dieu. Toi, tu gardes l'âme calme et tranquille. On te dit, ah, mais tu ne connais pas beaucoup. Ce n'est pas grave, mais Dieu connaît tout. Je me confie en lui. Lui, il connaît tout. S'il veut que je sache une chose, il va me dire. L'âme calme et tranquille. Beaucoup ratent le ciel parce qu'ils ont des âmes compliquées. Ils veulent tout comprendre, tout saisir. Vous savez, c'est comme si le feu commence dans ta maison. Tu commences à vouloir comprendre comment ça a commencé. Oh. Les pompiers vont dire, monsieur, sortez de là. Oh non, mais je veux comprendre. Je récupère mon livre de physique de terminale. Pour comprendre comment il y a eu court-circuit, je ne sais pas quoi. Tu vas brûler dans la maison. À un moment donné, il faut être simple. À tout moment d'ailleurs. C'est-à-dire, il y a le feu, je fuis d'abord, je comprendrai plus tard. Il y a le feu sur la terre. Le feu du péché. Préservons-nous d'abord en Christ. Mais toi, tu veux comprendre? Mais comment se fait-il qu'il prie Dieu alors que lui-même est Dieu? Mais comment ceci? Comment cela? Mais non, d'abord, saisis le salut qui t'apporte. Au ciel, tu comprendras tout. Ce qui est clair, c'est que lui t'apporte le salut. Maintenant, sur sa nature personnelle, c'est son problème. Toi, prends d'abord ce salut-là. Le monsieur à la croix, il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais son voisin, qu'est-ce qu'il faisait? Mais si vraiment tu es le Messie, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Voilà. Lui, il était dans je veux tout comprendre d'abord avant de croire. Mais comment il dit qu'il est le Messie, il se retrouve crucifié. Or, comment se fait-il ceci, cela? Ah, si vraiment il est le Messie, il n'a qu'à se sauver lui-même et puis nous sauver. Mais pourquoi te sauver toi? Toi, tu es à la croix parce que tu as volé. Oui, pourquoi tu veux qu'on te sauve, toi? Oui, la malhonnêteté. Mais le deuxième, lui, il a su, il a compris que ce monsieur n'a rien fait de mal, puisque le juge, puisque Pilate, la personne qui jugeait Jésus, a dit aux gens qui avaient accusé qu'il n'a rien fait de mal. On lui a dit, mais ça, c'est pas grave, crucifie-le quand même, sinon ça, on va faire des troubles. Donc le juge lui-même a admet que Jésus n'a fait aucun mal. Donc le deuxième brigand, il se dit, mais attends, il n'a fait aucun mal, mais comment alors il se retrouve à la croix? Ah, c'est là que la révélation vient. Ben, il est à la croix à cause de tes péchés. Il a pris tes péchés à ta place. Oh, qui peut être capable d'un tel amour? Ça ne peut être que le propriétaire de tout. Il y a des sacrifices que seul le propriétaire de quelque chose va faire. Donc quand le voleur là, le deuxième, se rend compte que Jésus est mort pour ses péchés, il a su automatiquement que c'était lui le propriétaire de l'univers. Parce que seul le propriétaire peut faire certains sacrifices. Seul un papa, une maman de quelqu'un peut faire certains sacrifices. Se dit, ah, Seigneur, moi je crois. Et je sais que tu reviendras récupérer ton monde. Alors, ce jour-là, récupère-moi aussi. Amen. C'est comme ça qu'il a été sauvé. L'âme simple. Bien-aimé, il faut avoir une âme simple. Il ne faut pas être compliqué. Une âme tranquille, calme, comme un enfant sevré. Toujours se compliquer, réfléchir. Non, il faut être simple. C'est là qu'on devient, comme vous savez, comme un tuyau propre qui fait circuler l'eau en abondance. Quoi. C'est ça, l'âme simple. Que le Seigneur nous aide à être simple comme ça. Au nom de Jésus. Amen. Oui.
Oui, j'avais une question. Parce que pour moi, l'âme, c'est le siège des sentiments. Je pensais qu'on ne pouvait pas maîtriser cette partie. Donc du coup, comment c'est possible? Vu qu'on ne maîtrise pas forcément.
Justement, on doit faire le choix d'être humble.
C'est une partie de l'être humain qu'on peut quand même maîtriser, l'âme. Je pensais que c'était une partie...
L'homme ne peut rien maîtriser. Mmh. Il doit faire le choix que... De la perfection que Dieu peut donner. Mais c'est un choix à faire. Il a des choix à faire.
Une question.
Oui.
Dieu est-il miséricordieux au point de reprendre quelqu'un qui, étant chrétien, est retourné dans le monde?
Ah oui. Si la personne se repent, oui. Le problème, c'est quand la personne pêche contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ni l'évidence de Dieu, là c'est fini. Mais tant que la personne reconnaît que ce qu'elle fait est un tort, le Seigneur peut récupérer la personne. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ce temps d'étude biblique, de temps de lecture de ta parole. Nous disons étude biblique, mais en réalité, Seigneur, c'est le temps où tu nous parles, Seigneur. Et vraiment... Nous te disons merci parce que ta parole est merveilleuse. Elle nous connaît et elle nous parle directement. Aide-nous à avoir cette sensibilité-là d'entendre ta voix à travers la lecture de la Bible. Et que, comme le monsieur à la croix, nous saisissions les choses, même si elles ne sont pas très claires pour d'autres, mais qu'elles le soient pour nous à cause de l'âme simple que nous te demandons d'avoir. Nous voulons une âme simple, calme, qui ne se complique pas, qui se dépose dans tes bras d'amour comme le bébé se dépose dans les bras de sa maman. Aide-nous, Papa, et merci encore pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.